ainsi réunis en cette église, en ce 11 novembre, pour tout d'abord faire la mémoire de l'un de nos héros français, Saint Martin. Saint Martin qui nous est venu de Hongrie, la Hongrie de l'Empire romain. Son père avait refusé qu'il soit chrétien, mais voilà que le jeune Martin, avant de s'enrôler dans l'armée de l'Empire romain, connaîtra cette vie chrétienne en Hongrie. Dépêché de par les missions de l'Empire jusqu'en notre Gaule, la future France, eh bien voilà que Saint Martin arrive, lui le grand soldat. Dans son bel habit, il entre à Amiens, mais le voilà déjà chrétien, tout dirigé vers les pauvres, il y reconnaît, devant ce mendiant, à Amiens, le Christ lui-même, celui qui est nu, celui qui est pauvre, celui qui a froid. Et voilà que Saint Martin descend de son cheval, déchire sa cape en deux pour en couvrir le pauvre. Pourquoi donc ainsi déchirer sa cape en deux et ne pas lui donner en entier ? C'est que Martin sait que si la doublure lui appartient, il appartient à chaque soldat de doubler son habit s'il le veut, l'uniforme quant à lui ne lui appartient pas, il appartient à l'Empire. Et voilà que cette cape donnera son nom de famille à la première famille de France, car nos rois sont capés en raison de la petite cape de Saint-Martin, gardée aujourd'hui non loin de son tombeau en la basilique de Tours. Oui, voilà que Saint Martin devient chrétien, puis du coup entre dans un monastère, se fait moine, et voilà qu'on vient le chercher, car il plaît au peuple chrétien d'entendre prêcher Saint Martin. Il lui plaît également à son contact de venir lui confier des prières, de confier tous leurs soucis, et voilà que Saint Martin devient l'évêque de la ville de Tours. Mais une fois que sa ville est bien structurée, chrétiennement parlant, Martin voit dans les campagnes ces paysans qui, eux, ne connaissent pas la bonne nouvelle du salut, et voilà que Saint Martin se révèle être l'apôtre des Gaules, l'apôtre de la France, allant nuit et jour annoncer la bonne nouvelle du salut. C'est Saint Martin, et au moment de sa mort, alors qu'il faisait bien froid, l'été de la Saint-Martin, qui est venu manifester toute cette clarté du ciel, cette limpidité de son âme, lui, l'ancien soldat, a offert toute sa vie pour ce peuple qui est devenu le sien, ce peuple de France. En regardant ainsi Saint-Martin, nous lui demandons, lui, un des saints patrons de notre terre, aux côtés de la bienheureuse Vierge Marie, dans bien sûr le mystère de son Assomption, en raison de sa consécration par le roi Louis XIII. Nous avons également à le voir aux côtés de sainte Jeanne d'Arc et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aux côtés de l'ange tutélaire de la France, le grand Saint-Michel, il est là. Saint-Martin a intercédé pour nous, a intercédé pour notre terre de France, pour son peuple du haut du ciel. Ce 11 novembre est également pour le français la fin des hostilités, la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale. Voilà que les combats ont cessé le 9 novembre et voilà la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Nous sommes alors dans la forêt de Compiègne à 5h15 du matin dans un wagon qui ici pour Castelnau résonne d'un écho particulier. Ce traité a été signé dans le wagon aménagé comme bureau pour le maréchal Foch. Et comme Castelnau est une des terres ancestrales du maréchal Foch, non seulement un grand héros militaire, mais également un fervent chrétien, eh bien voilà que cet armistice est signé, que la paix revient. Mais que s'était-il donc passé pour que nous entrions ainsi en conflit ? La France avait été terriblement humiliée par la défaite de Sedan en 1870. Nous ne pouvons pas comprendre la Première Guerre mondiale sans revenir à l'humiliation totale que nos aïeux ont vécue ce jour-là. Voilà que l'empire de Napoléon III s'effondre, la première puissance est vaincue. Et voilà, en signe d'humiliation totale, que la proclamation de l'empire allemand est décrétée dans la galerie des glaces, celle-là même où trônait le grand roi. Voilà l'humiliation totale Et voilà pourquoi la France entrera en guerre lors de la Première Guerre mondiale. Et si c'était l'empereur Guillaume Ier qui fut ainsi sacré empereur en la Galerie des Glaces, c'est Guillaume II qui recevra la défaite. Et voilà pourquoi le traité de paix sera signé non pas dans un lieu de la République, mais sera signé dans la Galerie des Glaces, là où l'humiliation avait été portée à son comble. Voilà ce traité de paix qui est signé, un traité de paix qui a laissé le pape Benoît XV dans la grande suspicion. Il publie une encyclique du grand nom de Pacem, la paix, dans laquelle il met en garde en disant « Mes enfants, la paix, la mentalité du vainqueur, ce désir de vouloir ainsi humilier l'Allemagne ne sont pas de bonnes conditions de paix. Nous allons retomber dans un autre conflit et le Saint-Père ne s'y est pas trompé. » En ce jour, pour nous, nous portons le souvenir ému de tous ceux sans qui nous ne serions pas là, de tous ceux sans qui nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui, des fils et des filles de France. Nous prions pour tous ceux qui, ici à Castelnau, ici dans le Val d'Adour, ici en notre chère Bigorre, ici sur cette terre de France, et dans toutes ces colonies de notre empire à cette époque, ont donné ainsi le sacrifice de leur vie pour notre patrie. En cela, ils répondaient au désir de l'amour, l'amour de cette terre, l'amour de leur famille, l'amour de leur État. Mais également, ils répondaient à ce désir du bien. De même qu'il est dans la nature de l'amour de se donner, nous voyons ainsi ces soldats donner leur vie, l'offrir en sacrifice pour notre liberté, pour la France. Eh bien, ce sacrifice continue à porter du fruit. Ils l'ont fait parce qu'ils voyaient le bien, la destruction du bien commun, l'humiliation de leur terre chérie, et ils se sont battus. Il est dans la nature du bien de se communiquer. Ce bien, ils nous l'ont légué, nous en sommes chacun les dépositaires. Voilà donc une raison supplémentaire de nous retrouver ici en cette église pour porter ces fils et filles de notre paroisse qui se sont donnés, car nous n'oublions pas que si eux étaient sur le front, combien sont restés ici et ont continué à porter le pays, ses valeurs et tout ce qui faisait notre existence ici-bas. À partir du 28 février 2012, voilà que l'État français a décidé d'élargir cette commémoration du 11 novembre à tous les morts qui ont donné leur vie pour la France. C'est l'occasion en ce mois de novembre, alors que nous prions chacun pour tous nos fidèles défunts, eh bien de prier pour tous nos aïeux qui ont été appelés sous les drapeaux, ont répondu présents, et pour tous ceux qui y sont tombés, pour tous ceux qui ont survécu. Et nous allons emporter également dans notre prière aujourd'hui, eh bien, tous ceux qui, dans les opérations extérieures ces derniers temps, ont offert leur vie en sacrifice. Pour nous, chrétiens, ce sacrifice résonne d'un écho particulier, car nous sommes à la suite du premier des sacrifiés, notre Seigneur Jésus le Christ. Il est venu offrir sa vie pour que nous ayons la vie éternelle en paradis. Il est venu nous délivrer de l'obscurité du tombeau. Et ce sacrifice, pour nous, chrétiens, nous engage et nous fait vivre chaque jour. Mais pour le français, il nous faut transposer. Le sang de tous ceux qui ont été versés pour nous, nous engage aujourd'hui. Nous avons à vivre en levant la tête, en étant fiers de nos héros, fiers de nos racines. C'est vers eux que nous faisons monter cette action de grâce pour leur repos éternel et pour que la paix véritable s'instaure ici-bas. Puisse Saint-Martin, puisse l'ensemble de nos héros parvenus en paradis intercéder pour nous. Nous confions cette prière à la bienveillance de la Vierge Marie, celle qui, en notre chère grotte de Lourdes, est venue nous rappeler à travers Sainte Bernadette que nous ne sommes pas faits pour le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Ainsi soit-il.